Chapitre 8. Non satisfaits d'avoir mis à mort Étienne, les chefs religieux déclenchent alors à Jérusalem la première grande persécution contre l'Église. Saul y a un rôle particulièrement en vue. Comme un loup, il ravage l'assemblée, violant l'intimité des maisons pour s'emparer de ses victimes. Cela entraîne la dispersion des disciples dans les provinces de la Judée et de la Samarie. Or, selon les paroles du Seigneur à ses disciples, au chapitre 1, verset 8, ces provinces devaient venir après Jérusalem, mais avant que leur mission ne s'étende jusqu'au bout de la terre. Ainsi, nous avons là encore un cas où Dieu se sert de la colère de l'homme pour l'avancement de ses propos. Pourtant, fait remarquable, les apôtres auxquels ce mandat avait été confié font exception à la règle. Il reste à Jérusalem. Le récit continue alors, sans plus les mentionner, pour parler de ceux qui sont allés çà et là, annonçant la parole, et plus particulièrement de Philippe, un autre parmi les sept. Il descend dans une ville de la Samarie et prêche. La puissance de Dieu l'accompagne, et il en résulte une grande bénédiction, comme toujours lorsqu'un serviteur de Dieu marche dans la ligne directe du propos de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui avait semé la semence parmi les Samaritains. Nous le voyons en Jean 4. Ils avaient été alors nombreux à reconnaître qu'il était véritablement le Christ, et non pas simplement à dire « Celui-ci n'est-il point le Christ ?» Maintenant, Philippe, venant au milieu d'eux, annonce Christ comme celui qui est mort, ressuscité et glorifié. Il en résulte une riche moisson. Et une grande joie se répand dans cette ville. Son message étant reçu, Philippe se met à leur annoncer les bonnes nouvelles touchant le royaume de Dieu. Et beaucoup sont baptisés. Simon, le magicien, est l'un d'entre eux. Lui aussi crut et fut baptisé. Il se trouve en présence d'une puissance infiniment plus grande que celle des esprits immondes avec lesquels il avait eu affaire auparavant, comme nous le voyons au verset 7. Un point remarquable dans cette œuvre en Samarie, c'est que malgré le nombre de personnes qui avaient cru l'Évangile et qui avaient été baptisées, aucune n'avait reçu le don du Saint-Esprit. L'ordre présenté par Pierre au chapitre 2, verset 38, n'a pas été observé dans le cas des Samaritains. Nous sommes certains que Dieu avait une raison particulière de l'avoir voulu ainsi. Il y a toujours eu une rivalité religieuse entre Jérusalem et la Samarie, comme en témoigne Jean 4. Et il y aurait eu une forte tendance à transférer cette querelle ancienne dans les conditions nouvelles. Il en serait résulté une église samaritaine indépendante, sinon rivale, de l'église à Jérusalem, et ainsi l'expression pratique de la vérité du seul corps aurait été mise en danger avant même d'être révélée. C'est pourquoi ils ne reçurent l'esprit que lorsque Pierre et Jean furent venus et leur eurent imposé les mains, identifiant par là formellement les apôtres et l'Église à Jérusalem avec ses nouveaux croyants de la Samarie. L'unité de l'Église était préservée. Le don du Saint-Esprit a été la ligne de séparation entre ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Être baptisé n'était pas forcément une preuve de réalité, le don de l'Esprit l'était. C'est ainsi qu'en Samarie, Simon baptisé n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Les versets 12 et 16 nous montrent que celui qui se faisait baptiser professait par là son entrée dans le royaume de Dieu et son identification au nom du Seigneur Jésus qu'il reconnaissait comme son nouveau maître, tout comme autrefois Israël avait été baptisé pour Moïse. Voir 1 Corinthiens 10, verset 2. Simon s'était soumis à tout cela, mais lorsqu'il fut mis à l'épreuve, il apparut qu'il n'y avait pas de réalité en lui. Jamais il n'aurait dit « Donnez-moi ce pouvoir » s'il l'avait possédé. Et il ne le comprenait pas non plus, puisqu'il offre de l'argent. Quel coup terrible pour Simon, qui jusque-là dominait la population de Samarie par sa magie, de découvrir que la foule possédait maintenant une puissance en présence de laquelle ses actes ténébreux n'avaient plus de valeur. Ils avaient reçu le don du Saint-Esprit et lui était resté en dehors. Il est alors amené à se démasquer en offrant de l'argent aux apôtres. Il veut non seulement acquérir l'esprit pour lui-même, mais aussi avoir le pouvoir de le transmettre à d'autres par l'imposition des mains. Il calcule sans doute que s'il possédait un tel pouvoir, l'argent investi pour l'acquérir serait un placement très profitable. Ces versets nous donnent la troisième manifestation de ce mal dans le cercle de ceux qui avaient été baptisés. Il y a d'abord eu Ananias, puis les murmures en relation avec les veuves qui étaient négligées, et enfin Simon le magicien. Remarquons que chaque fois l'argent est en cause. Dans ce troisième cas, nous voyons le début des efforts de Satan pour transformer la foi pure en Christ en une religion qui rapporte. À Samarie, ce n'était qu'un petit filet d'eau en provenance d'un homme. Il ne devait pas tarder à devenir un fleuve, apportant d'immenses richesses à Rome. Dans le système religieux qui y a son siège, tout ce qui est présenté comme un don de Dieu peut être acquis avec de l'argent. Pierre n'épargne pas Simon le magicien. Il lui dit clairement que cette mauvaise pensée trahissait que son cœur n'était pas droit devant Dieu, qu'il était tout à fait en dehors de la vraie foi de Christ, et que lui et son argent périraient. Les paroles de Pierre annoncent sans aucun doute prophétiquement le jugement qui s'abattra à la fin sur le grand système ecclésiastique qui, au cours des siècles, a transformé le christianisme en religion de l'argent. Un rayon d'espoir subsistait pour Simon. Pierre le lui présente au verset 22. Il pouvait se repentir, et alors le pardon lui était encore offert. Remarquons comment, indépendamment de ses paroles, la pensée même de son cœur est caractérisée par la méchanceté, une illustration de ce verset des Proverbes « Le plan de la folie est péché » Proverbe 24, verset 9. Retenu dans l'esclavage de l'argent, il était dans un lien d'iniquité et d'amertume. L'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Il est à l'origine d'une grande partie de l'amertume qui remplit la terre. Pierre invite Simon à supplier Dieu, mais sa réponse rapportée dans le verset 24 semble indiquer qu'il n'y a pas eu la repentance qui l'aurait amené à prier lui-même et qu'il voulait s'assurer l'intercession de Pierre en sa faveur sans rien avoir à payer. À partir de ce jour, des multitudes ont dépensé d'énormes sommes dans l'espoir d'obtenir l'intercession de Pierre. Le verset 1 de notre chapitre nous a montré que les apôtres ne s'étaient pas pressés de quitter Jérusalem. Philippe avait été un pionnier dans la Samarie, mais maintenant que Pierre et Jean sont descendus, ils enseignent la parole aux convertis et évangélisent aussi plusieurs villages des Samaritains avant de retourner à Jérusalem. Mais le travail de défrichage n'est pas achevé, et pour le poursuivre, l'ange du Seigneur s'adresse à Philippe et non pas aux apôtres. L'obéissance simple et instantanée de Philippe aux instructions du Seigneur est très remarquable. Il est appelé à quitter le lieu où son travail portait tant de fruits pour se rendre dans la région désertique située au sud-ouest de Jérusalem. Le récit nous montre que dès qu'il entendit « Lève-toi et va », Philippe, se levant, s'en alla, bien que ses frères aient pu penser qu'il se fourvoyait et faisait preuve d'excentricité en agissant ainsi. S'il ne savait pas au départ quel était le but de ce déplacement, il ne devait pas tarder à le découvrir. En effet, ses pas sont guidés de manière à le placer sur le chemin d'un Éthiopien occupant une position élevée qui recherchait Dieu. Selon le peu de lumière que cet homme possédait, il avait entrepris un voyage fatigant pour venir à Jérusalem. Il était arrivé trop tard pour retirer quelques bénéfices du temple, car celui-ci n'était plus reconnu comme maison de Dieu. Il arrivait aussi trop tard pour rencontrer le Seigneur qui avait été rejeté et élevé dans le ciel. Néanmoins, il repartait avec un livre important des Écritures de l'Ancien Testament, et sur son chemin de retour, il ne lui manquait plus qu'une seule chose. C'est pour lui apporter cette seule chose que Philippe est envoyé, car Dieu ne permettrait pas qu'un Éthiopien élève les mains vers lui sans recevoir une réponse. Il avait besoin de la lumière du Nouveau Testament. Or, celui-ci n'était pas encore écrit, et Philippe est envoyé pour lui apporter le message du Nouveau Testament. L'Esprit de Dieu dirigeait tout. Aussi, tout s'ajuste-t-il avec une remarquable perfection. L'Éthiopien venait d'arriver dans sa lecture au milieu d'Ésaïe 53, quand Philippe l'interpelle. Son esprit vif était occupé de la question que ce chapitre soulève immanquablement dans les pensées de tout lecteur intelligent. Le prophète dit-il cela de lui-même ou de quelque autre? L'Éthiopien pose sa question. Philippe part de ce verset pour lui annoncer Jésus. Luc résume pour nous dans ce saint nom tout le message de Philippe à l'Éthiopien. Et c'est facile à comprendre si nous nous souvenons de la manière dont il nous est présenté et interprété en Matthieu 1, verset 21. Tout ce dont cet homme avait besoin, la lumière et le salut, est en Jésus. Et il le trouve pendant que Philippe lui parle. Ésaïe 53 présente justement Jésus comme la victime expiatoire, le substitut qui a passé par la mort, comme celui dont la vie a été ôtée de la terre. Et l'Éthiopien, qui connaissait manifestement quelque chose du baptême et de sa signification, exprime le désir d'être identifié avec lui dans sa mort. Dans le baptême, nous sommes identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort. Romains 6, verset 5. Et il estime que rien ne l'empêche d'être identifié de cette manière avec celui en qui il croit maintenant. Rien ne l'empêchait, bien que l'eunuque n'ait pas été un juif. Et ainsi, Philippe le baptise. Voilà comment le premier gentil a été atteint et baptisé et qu'il est retourné vers son peuple avec la connaissance du Sauveur. Philippe disparaît de devant ses yeux encore plus rapidement qu'il n'était apparu. Mais ayant cru en Jésus, et non pas en Philippe, l'Éthiopien n'en est pas particulièrement troublé. Il continue son chemin, tout joyeux. Sa foi s'était attachée non pas à Philippe, mais à celui que Philippe avait annoncé. Pour lui, ce n'était pas Jérusalem, mais Jésus. Ce n'était pas davantage Philippe, mais Jésus. S'attacher au prédicateur contribue à affaiblir. S'attacher au Sauveur donne la force spirituelle. Quant à Philippe, la manière surnaturelle selon laquelle il est transporté à Azoth ne le déconcerte nullement. Il se dirige vers le nord en évangélisant les villes sur son passage jusqu'à Césarée. Cette fois, dans ce chapitre, il est question d'annoncer la parole ou de prêcher, et cinq fois nous trouvons dans l'original le mot que nous avons repris dans notre langue, évangéliser. Ce sont les versets 4, annoncer, voir la note C, 12, annoncer les bonnes nouvelles, 25, évangéliser, 35, annoncer, et 40, évangéliser. Et dans trois de ces cinq cas, c'est Philippe qui évangélise. Il n'est ainsi pas surprenant qu'il soit appelé plus tard Philippe l'évangéliste, chapitre 21, verset 8. La conversion de l'Éthiopien indique que le temps de la bénédiction pour les gentils était arrivé. Il est comme l'hirondelle avant-coureur annonçant la venue de l'été. Le chapitre 9 relate l'appel et la conversion de celui qui sera l'apôtre des gentils. Comme souvent, le choix du Seigneur se fixe sur la personne à laquelle nous nous serions le moins attendus. Le persécuteur des saints va devenir le serviteur par excellence du Seigneur. À cet effet, il passe par un chemin exceptionnel. Le Seigneur lui-même s'occupe directement de lui, à l'exclusion de toute intervention humaine dans les choses essentielles.